tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Donc on est en train d'essayer de créer une radio qu'on appellerait sans doute C'est la radio. Tout d'abord, bienvenue Katia. Pour cette interview portrait, on avait décidé de faire une porte d'entrée en te demandant d'imaginer que tu es chez toi et de nous décrire un petit peu ton univers de travail. Alors si je reprends juste quelques éléments de ta présentation, je lis beaucoup de choses, danse, art plastique, conte, marionnette.
Donc je suis marionnettiste. J'ai été compagnon marionnette pendant 4 ans. Je suis plasticienne, ça c'est ma formation de départ dans les arts plastiques. Je suis conteuse également. Donc la particularité du marionnettiste, c'est qu'en fait il a un stylo dans une main où il écrit, et dans l'autre main il a un tournevis ou un marteau, ce que tu veux, parce qu'il y a beaucoup de construction. Je travaille énormément avec le papier depuis quelques années. Donc je fais des sculptures en papier craft, que après j'assemble pour en faire une marionnette, un corps qui puisse être animé. Ça demande du temps. On regarde ces marionnettes, on les regarde pendant 1 heure, 2 heures, 2 jours, 2 semaines. Ce temps-là, il est important. Et ça aussi, c'est complètement à l'inverse de ce qui est ambiant, où tout est rapide. L'acte de création, c'est difficile à définir, en fait. C'est un espace. Il est silencieux, il est bruyant, il est divers. Si tu veux, j'ai pas mal de commandes, en fait. On me demande de travailler sur un sujet. Donc ça, c'est intéressant, parce que du coup, moi, je réponds à la commande, et puis je m'en évade. Enfin, mon curseur à moi, c'est quand l'acte de création te porte et te fait aller beaucoup plus loin que là où tu pensais arriver. Pour être inspirée, je m'inspire de la vie des gens, je m'inspire de mon prisme à moi, sur le monde, sur l'univers. C'est très important pour moi, cette responsabilité qu'on a quand on monte sur un plateau ou quand on écrit un livre, ou quoi qu'on fasse, de prendre la responsabilité de cet espace public où on vient dire quelque chose. C'est un engagement, l'acte de création. S'il n'y a pas de fond dans ce que je raconte, je ne vais pas être bien, je ne vais pas le faire en fait. Voilà, donc moi, pour moi, c'est vraiment l'un de mes piliers.
Qu'est-ce que tu nous caches quand tu nous dis ce que tu nous dis avec tes bons hommes? Pourquoi est-ce que tu n'es pas Blanche Gardin, par exemple?
Oui, effectivement, je ne suis pas Blanche Gardin. Je suis Katia Bellalima. Ça, c'est hyper important, tu sais. C'est bien d'être soi. Enfin, vraiment, tout le monde là, dans cette pièce est magnifique, quoi. Il n'y a pas à en douter. Et on va faire des choses différentes. Hein, heureusement, si on fait tous la même chose. Alors moi, ma marionnette, elle a une particularité, c'est que je ne suis pas cachée derrière. Tu me vois manipuler. Les gens, si tu veux, au début, ils vont me regarder que moi, en fait. Et à un moment donné, il m'oublie. Elle est là, la magie. C'est ça, l'émerveillement et cet enfant. Et bien, c'est ça que j'aime, moi. C'est ce tout petit truc. Et tu vois, la dernière fois, j'ai fait un truc pour la nuit du conte. Et à la fin, on m'a dit, « Ah, tu m'as fait penser à Blanche Gardin. » Et je pense qu'on a des ponts entre nous deux, tu vois, pour qu'on vienne me dire, « Tu me fais penser à Blanche Gardin. » Qu'est-ce qu'ils veulent dire, les gens? Mais je pense que c'est l'autodérision. Son prisme, ça va être elle. Et je trouve que c'est le même exercice qu'une marionnette, en fait. Elle nous amène dans un personnage qui est dans l'autodérision. Et cette autodérision, moi, je la pratique depuis toujours. Tu vois, j'avais le truc en moins de le ridicule ne tue pas, je t'assure, quoi. Moi, je faisais rire de ma famille toute petite parce que je me moquais de moi-même. Mais je me moquais avec beaucoup d'amour. Blanche Gardin, elle fait ça un peu. Pour dénoncer quelque chose de plus profond, c'est en ça où moi, c'est une belle artiste pour moi, elle est dans l'engagement. C'est quelqu'un qui va justement bousculer tous les codes, quoi, tout ce qui est en place. Et pour moi, on fait un peu le même boulot, quoi. Qui est marionnette, qui n'est pas marionnette. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, tu sais, je fais beaucoup de choses sans marionnette, sans rien. Il s'agit, tu sais, quand tu viens sur scène, tu te fous à poil. Parce qu'en fait, le jugement de l'autre, il n'existe pas. Mais c'est notre propre jugement, en fait, qui nous sabote. C'est une forme de mise à nu. Donc il va falloir aussi regarder qu'en fait, c'est toi qui es en train de te juger. Quand tu t'en rends compte, c'est assez magique aussi. Mais il n'est pas non plus question d'aller tout raconter de soi. Évidemment, il y a des endroits qu'on va cacher parce que c'est de l'ordre peut-être de l'intimité. Et ça, c'est plutôt ça, je trouve.
D'où te vient cette envie de sortir l'enfant qui est chez les adultes et qui est déjà aussi présent chez les enfants? Et comment tu as su que c'était ce domaine-là qui te faisait vibrer et qui te permettait de t'épanouir?
L'adulte a besoin, beaucoup plus que les enfants, de grandir. On se doit tous, pour grandir, sortir de sa zone de confort. Cet enfant, d'où il me vient, c'est cette conviction profonde que j'ai que l'être humain peut être autre chose que ce qu'on peut en décrire aujourd'hui. C'est ça qui me fait vibrer. Et mes marionnettes, l'enfant intérieur, je crois que tout est possible. Mais tout est possible. Hein. D'ailleurs, c'est le nom de ma compagnie. Après, le truc, c'est de le répéter dans sa vie. Moi, je ne suis pas auprès des gens tout le temps. Donc, c'est un peu comme si je semais des graines. Je suis persuadée que des fleurs vont pousser, même si elles poussent que dans 10 ans. Et voilà, donc moi, ça passe par le prisme d'une marionnette, d'un dessin au plateau. Tu sais, si tu peins sur un spectacle, c'est magique. Souvent, les enfants, à la fin du spectacle, on fait un petit retour. Puis ils me demandent, comment tu fais la magie? Alors, ils vont me parler de tel et tel endroit dans le spectacle. Je me dis, c'est extraordinaire. La magie, ils voient comment je le fais, mais ça reste de la magie. Et ben c'est ça la vie. Je pense qu'il faut mettre ça dans sa vie chaque jour. Et sa vie change. Le monde change. Moi, j'y crois, hein, jusqu'au bout.
De tous ces personnages que tu as pu créer, moi, j'avais deux questions. La première, c'était, est-ce que ces personnages-là naissent et renaissent à chaque fois que tu fais un spectacle? Et je voulais aussi savoir... Lequel de ces personnages, si c'est des personnages qui sont redondants, qui reviennent, duquel tu te sens le plus proche, qui parle le plus ta langue et qui dit le plus que tu aurais envie de faire passer comme message?
Oui, les personnages, ils renaissent à chaque fois. Et en fait, le temps de vie d'un objet comme ça, il est très court. On appelle ça le temps où le spectateur s'autorise à y croire. Mais il y a un endroit, pendant quelques secondes, tu vas t'autoriser à y croire entièrement que ce caillou ou ce papier est vivant. C'est court, mais c'est ce moment-là, en fait, qu'on cherche en tant que marionnettiste. Alors, il y a une marionnette que j'aime beaucoup et que je continue à faire naître et renaître et grandir. C'est la marionnette, on l'appelle. Et c'est vrai, quand je l'ai fabriquée, elle était haute comme ça. Et en fait, je travaillais avec les enfants, la chorale des enfants de Montpellier, là. Et en fait, elle a grandi, je l'ai fait grandir avec les enfants. Et donc, maintenant, elle fait ma taille. Et ce personnage, en fait, je lui ai écrit d'autres spectacles. Si tu veux, à chaque fois, oui, elle se nourrit, elle avance, elle grandit, elle mature. Elle a une vie propre, ouais. C'est la seule marionnette où ça me fait ça. Cette marionnette, elle existe, quoi, pour moi.
Est-ce que tu as choisi de venir à Celle-Neuve aussi parce qu'il y a quelque chose de spécial et est-ce que ça influe sur ton travail?
Non, je suis arrivée sur le quartier par le biais d'une petite annonce pour une petite maison, quoi, voilà. Après, effectivement, ça amène des choses dans mon travail, ce quartier. Donc, c'est un quartier où je suis restée, que j'aime beaucoup. C'est une source d'inspiration. Dans le sens où, en fait, c'est toute cette énergie diverse et variée de ces gens très différents, ça porte. C'est vrai. Mais pour n'importe qui, en fait, artiste ou pas, tu vois, d'être dans un environnement où les gens osent faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille ensemble. Quand même en bas de chez moi, quoi. Donc ça, c'est formidable, tu vois. C'est un quartier très féminin, en plus. Il y a beaucoup de femmes qui sont très actives. Elles sont visibles, en fait, dans ce qu'elles font, dans leurs propositions sociales, artistiques, politiques aussi, beaucoup. Donc, ouais, c'est un quartier que j'adore, qui me porte et que je porte.
Je voulais savoir, moi, si tu avais fait des projets radiophoniques. Sachant que je trouve qu'il y a un lien quand même assez fort entre ton univers, tes spectacles, voilà, qui portent la parole et comme la radio peut aussi porter la parole.
Ouais, c'est vrai. Le premier projet que j'ai fait, c'était un projet radiophonique. J'avais 18 ans, je sais pas, j'étais toute jeune. Parce qu'en fait, c'était pour Radio Junior. C'était une radio associative sur Paris. Et en fait, c'était une marionnette qui venait faire son émission. Ce qui est génial, c'est que la marionnette à la radio, tu la vois pas. Mais c'était ça. Et moi, je venais vraiment avec ma marionnette. Tu vois. Je la faisais parler. C'était les bouches-trouilles. Et donc, ils venaient faire une émission hebdomadaire. Hein. En plus, ce qui est intéressant, regarde, tu vois, même en tant que conteuse, une conteuse, quand même, c'est ça. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de marionnette. Il n'y a même pas de performance, de one-woman show, tu vois. Il y a une conteuse qui est là, ou un conteur, au service d'une histoire. Tu te fermes les yeux tout le long, c'est pareil. Tout le film va se passer dans ta tête. Bah, la radio, c'est ça aussi. La radio ne coupe pas l'image. L'image, elle est là, elle va être encore plus forte quelque part, puisque c'est toi qui vas la créer.
Est-ce que tu as des projets en cours ?
Ben, j'ai des projets en cours. J'ai le projet en fait, de faire une série film, vidéo, avec cette marionnette, ce personnage qui est la marionnette. Le projet, mon projet là, ressemble vraiment aux bouches-trouilles, la Radio Junior. Et en fait, c'est le même principe, c'est une espèce de série qui revient régulièrement. Autre projet, c'est un spectacle que tu connais, Élise, qui est les Tirailleurs. C'est vraiment un spectacle pour adultes, adolescents. On va élargir le prisme, partir en Nouvelle-Calédonie pour aller avec les Kanaks, là. Et pareil, revisiter l'histoire. Et si on va demander à l'autre bout du monde la même histoire, c'est pas du tout la même. Donc c'est ça un peu, c'est reculer son prisme. Et puis, peut-être apaiser aussi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir apaiser quand même dans notre histoire. Elle est ce qu'elle est. Voilà, merci beaucoup.
C'est la radio. Atelier numéro 2, l'interview.
Bonjour.
Bonjour Luc. C'est la radio.
Ouais.
On vient vous poser quelques questions pour vous connaître et apprendre sur votre métier.
Eh bien, entrez, vous êtes les bienvenus.
Merci.
Oh, c'est haut.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce métier ?
En fait, mon père faisait un peu de photos. Moi, j'étais mauvais à l'école. Enfin, bon, je suis allé au bac, mais j'étais pas. Enfin, c'était pas mon truc. Et c'est au cours d'un voyage en Algérie. Parce qu'en fait, je suis né en Algérie dans les années 70. Enfin, en 70. Je suis retourné avec des copains quand j'avais 18 ans. Et avec un appareil photo de mon père. Et en revenant, j'avais 5 pellicules. Donc j'avais été à l'époque à la FNAC pour faire développer. Et vu comment c'était cher, à Jacou, en fait, là où j'habitais à l'époque avec mes parents, il y avait un club photo. C'était genre 15 euros pour le club et genre 80 euros les développements pour les photos. Du coup, j'ai appris, en fait, pécuniairement, bêtement, parce que j'ai pas beaucoup de thunes. Et en fait, j'ai eu la passion en développant les négatifs, là. C'est Henri Monciol, enfin, c'est lui qui m'a appris à développer. Et du coup, des petites pellicules, j'ai vu les films, il m'a appris à développer les photos. Et du coup, j'ai trouvé ça magique, quoi, et ça m'a plu. Et du coup, comme je savais pas trop quoi faire dans ma vie, ce jour-là, j'ai trouvé, en fait. Et ça fait plus de 30 ans que ça dure.
Donc, pour un peu mieux vous connaître, on va faire un portrait chinois. Si vous étiez un instrument de musique.
Il y a un instrument que j'aime bien, c'est la clarinette basse. Parce qu'elle est proche de la voix humaine. Et j'ai un copain qu'on joue super bien.
Alors, si vous étiez une porte.
Elle serait ouverte.
Si vous étiez un jeu.
Le Scrabble. Parce que j'ai participé à rentrer un mot dedans. Shibani, ça veut dire cheveux blancs en arabe. C'est un Scrabble. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait rentrer tout seul, on est plusieurs. C'est une dame qui a vu l'expo qu'on a fait sur les Shibani et le documentaire de Rachid Oujdi. Et cette dame-là était dans le Scrabble. Elle était bouleversée par l'expo et le film. Et elle a dit qu'elle allait le faire rentrer dans le Scrabble. C'était en 2016 et elle l'a fait.
Si vous étiez une rue ou un quartier ?
Eh ben, rue de la Liberté, parce que ça va se chercher.
Si vous étiez un arbre ?
Ah, si j'étais un arbre, pour la blague, je serais un courbaril. C'est un arbre qu'on trouve en Martinique et en Guadeloupe, enfin dans les Caraïbes. Et c'est un arbre qui a le bois qui est très très dur. C'est pas un arbre qui est forcément très très joli en fait, mais c'est un arbre qui est un peu symbolique parce que Aimé Césaire, que j'ai rencontré en 2005, il l'a planté en 2003 chez Bernard Ayotte, qui est le plus gros milliardaire de la Martinique, qui est en fait le descendant des colons qui a fait venir ses descendants des esclaves à lui. Et en fait, Aimé Césaire a fait un texte par rapport à la fraternité entre les Noirs et les Blancs, en fait. Et en fait, c'est un arbre qui a une spécificité. Il a la bifoliation. C'est une tige pour deux feuilles. Une feuille pour le blanc, une feuille pour le noir. Et en fait, le soir, les deux feuilles se rassemblent. Donc, c'est la particularité du courbaril. Et en fait, j'ai rencontré Francis Allais, qui est un grand botaniste qui habite à Montpellier. Il me dit, c'est bizarre qu'il ait choisi un courbaril. Moi, je ne suis pas botaniste, alors du coup, je vais demander pourquoi. Les Martiniquais appellent cet arbre cacachien. Ah, je dis, ah bon ? Il me dit, en fait, bah oui, parce qu'en fait, la particularité de cet arbre, c'est qu'il a des fruits qui puent la merde. En fait, il a fait une blague aux descendants des colons. En fait, il a planté un arbre qui chie dessus tous les ans. Donc, en fait, il a fait un beau texte sur la fraternité, mais tous les ans, il chie dessus. Et je trouve ça formidable.
Pourquoi prenez-vous des arbres en photo ?
En fait, ça fait peut-être un an et demi là, que j'ai commencé un travail là-dessus. En fait, pour arriver aux arbres, parce que moi, je viens du béton. Je suis né en ville, j'ai mis des années à... Enfin, pour moi, c'était du bois, en fait. Hein. Et j'ai compris la puissance de ces êtres-là qui sont différents de nous. Par exemple, les arbres, ils ont 360 millions d'années. Les arbres, ils ont une particularité aussi, c'est qu'ils prennent du dioxyde de carbone, enfin les trucs. Ils créent de l'oxygène. Et en fait, c'est grâce à eux qu'on respire. Et en fait, mais en termes de photos, j'ai travaillé sur les Chibani, ces vieux travailleurs immigrés qu'on a mis en lumière. C'est un peu un thème sur le post-colonialisme, en fait. Sur après les guerres coloniales et tout ça. Et j'ai travaillé beaucoup aussi en Martinique sur l'esclavage. Et en fait, ces questions-là, en fait, j'ai pas trouvé vraiment de solution à moi. Les armes, en fait, c'est une manière de voir des ancêtres différents. Et qu'on soit chinois, européen, quelle que soit la couleur de la peau, en fait, on voit des êtres différents. Et les arbres ont un ADN, comme nous. Alors du coup, le thème des arbres, en fait, je l'ai appelé arbre de nuit, ADN. En fait, je fais des portraits d'arbres la nuit, donc ils sont, j'y vais à minuit, 1h du matin, enfin, et j'ai des petites lampes, je dessine, enfin je remets de la lumière sur les arbres, en fait je les éclaire, dès que ma lumière touche, ça fait apparaître, et là où ça touche pas, bah, ça reste noir. Et pour sensibiliser les gens, en fait, j'ai mis dans les photos, vous verrez, il y a des numéros dessous. En fait, c'est un point GPS. Et donc, c'est le numéro de la photo. Si l'arbre, vous le trouvez joli, ben, vous pouvez taper ça dans votre téléphone et il vous amène à l'arbre.
Quand vous n'utilisez pas votre appareil photo, vous utilisez quelle méthode pour prendre des photos ?
Il y a les photos, les petites photos dans les boîtes à papillons. Là. Et vous verrez qu'à gauche, là, il y en a un qui est bleu. Et en fait, c'est un cyanotype. C'est une technique photographique qui a été inventée en 1842. C'est une chimie particulière, en fait. Et là, pour le cyanotype, c'est des sels de fer. Ce qui fait le côté bleu. Et en fait, on met le produit sur une feuille. Moi, je le mets sur des feuilles de papier arche. Donc, je fais sécher le produit dessus. Donc, on prend un négatif. Donc, en fait, moi, j'ai des photos numériques. Je fais un négatif et je le mets au soleil. Et c'est les UV du soleil qui révèlent la photo. Il faut compter 3, 4 minutes, 8 minutes selon les UV, quoi. Et après, on lave avec de l'eau. Et en fait, ça fait révéler la photo. Et la photo, elle est garantie à peu près 200 ans. Ah si, j'avais utilisé autre chose qu'un appareil photo pour faire des photos. Et en fait, j'avais transformé une poubelle en appareil photo. Et je l'avais appelée la poubella obscura. En fait, on rentrait dans la poubelle et on rentrait dans un appareil photo. Et du coup, l'image était à l'envers. Parce que quand on est dans un appareil photo, l'image, elle est à l'envers. Donc j'avais fait ça. Et aussi, j'avais transformé un carton d'emballage en appareil photo avec un zoom. J'avais fait un cadre. Et en fait, on mettait la tête dans le carton. Et en fait, ça faisait un zoom. J'avais fait des photos après à la plage. Donc j'avais aussi mon appareil photo. Je leur expliquais au premier comment ça marchait. Et puis les gens étaient curieux, donc ils se passaient à l'appareil photo. Et je leur disais, pour voir la photo à l'endroit, il faut mettre la tête à l'envers. Alors je ne vous raconte pas les photos, ils étaient ridicules les gens, mais ils n'étaient pas reconnaissables.
Pour faire une certaine série, comment vous sélectionnez vos photos ?
En fait, je regarde mon sujet, par exemple, mais je regarde aussi ce qui se passe derrière. Donc en fait, après, plus ça va, plus on voit. En fait, on augmente notre manière de voir. On est plus augmenté, en fait. Enfin, je sais pas trop. Enfin, c'est vrai que c'est un peu instinctif, donc c'est comme une sorte de réflexe. Et puis, en fait, des fois, c'est pas vrai, quoi, parce que des fois, on revient dessus. Si je reprends, par exemple, une planche contact, j'ai choisi ça il y a 10 ans, je reviens dessus, je vois ce que j'ai choisi, et je dis, merde, mais non, la bonne, elle était pas là, en fait. Mais à l'époque, dans ma manière de penser, la bonne, elle était là, quoi. Donc, en fait, c'est hyper relatif. Comme dirait Einstein, c'est relatif. Mais il y a le côté, on le voit, quoi. Mais ça peut changer. Par exemple, le boulot que j'ai fait sur les Chibani, sur les vieux travailleurs immigrés, hommes et femmes, des papys enfin, qui étaient restés dans des chambres de 4 mètres carrés, franchement, ça m'a choqué. Et du coup, j'ai voulu faire quelque chose pour ces gens-là, et j'ai cru que ça allait être compliqué, en fait. Et en fait, franchement, je crois que ça n'a jamais été aussi simple. J'ai fait un tour de France pour faire ces photos-là. En fait, j'avais fait une espèce de protocole, j'avais pris un fond noir pour annuler l'espace social. Donc les gens étaient prévenus, donc s'ils n'acceptaient pas, mais je ne faisais pas la photo. Et en fait, ces personnes-là, je les avais assis sur une chaise un peu particulière, qui est une chaise de designer, parce que je voulais les mettre sur un trône. On ne voit pas la chaise sur mes photos, mais je voulais qu'ils soient bien assis. Et bien, quand j'ai fait les photos, je me suis retrouvé à faire 1, 2, 3 photos maximum. En fait, ils avaient un rapport à la photographie des années 50. Et dans les années 50, quand ils allaient chez le photographe, et bien, ils ne bougeaient pas. Et donc, on faisait une photo, la deuxième, c'était la même, la troisième, c'était la même. Par exemple, des fois en studio, selon le travail de lumière, par exemple pour la pub, bah des fois je vais faire allez, 10 photos dans la journée et je vais mettre 10 heures. Tu vois, et alors qu'un championnat du monde de moto, je vais faire 4000 photos en 2 jours. Tu vois, c'est vraiment différent, quoi. Une bonne photo, il faut qu'on ait l'émotion. Mais l'important, c'est quand même d'avoir une bonne image.
Ça sert à quoi une photo dans le sens où c'est une image qui ne bouge pas par rapport aux images qui bougent?
Bah déjà, ça fait bouger la tête hein, de celui qui le regarde. Et puis, on a tous une interprétation différente. Et puis, en fait, c'est un peu comme un enfant. Hein. On en fait un, mais il n'est pas pour nous. Hein. Et après, il fait sa vie. Et donc, du coup, y a des photos qui changent le monde. Il y a des photos qui changent les regards. Et puis, il y a des photos qui vont à la poubelle. Et puis, enfin, c'est comme... Il y a des gens qui vont être sensibles, qui vont pleurer devant une. Et puis, d'autres qui vont... Ça ne va pas leur parler, quoi. Parce qu'on est tous différents, mais c'est un pont quand même, ça fait partie de l'art, donc c'est aussi de l'art de mettre en relation des choses qui, des gens, des choses, puis des histoires qui ne nous appartiennent pas, qui nous appartiennent parce qu'on l'a créé, et puis...
Quelle est la photo la plus ancienne que vous avez en mémoire?
Tata à la mouche, alors c'est Abdeslam Khelil, c'est un artiste algérien. En fait, je l'ai en bas la photo en fait. C'est mon père qui l'a pris avec lui dans le sud du Sahara. C'est une dame qui a 20 ans, ou 19, ou 16, je ne sais plus trop. Mais elle est intemporelle. On a l'impression que c'est une grand-mère. Et pourtant, elle est jeune. J'ai grandi avec cette photo. Et si vous voulez, je vous fais une photo de groupe là.
On fait une mise en scène. Il y en a qui prend le casque. Enfin,
okay.
Comme ça.
Comme ça.
C'est la radio est un projet de web radio du quartier de Seine-Neuve, en cours de création et ouvert à tous et toutes. Projet accompagné par l'association Odette Louise et Wakadi. Fiouche Kids.